Alors, le contrat, avant toute chose, je voudrais vous alarmer, entre guillemets, sur une pratique de plus en plus courante, qui est de demander aux personnes que l'on veut recruter de travailler dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat. Alors, être auto-entrepreneur, ce n'est pas un contrat de travail. Être auto-entrepreneur, c'est être en indépendant. Alors, il faut vous repencher un peu sur l'historique de ce statut-là. Ce statut, il a été créé, en gros, pour deux choses, et deux choses uniquement. C'est la personne qui a un salaire, qui a un emploi, et qui veut avoir en complément une activité pas importante. Deuxième objectif de l'auto-entrepreneuriat, c'est tester. Vous avez un projet de vous installer à votre compte et vous voulez savoir si c'est viable ou pas. Vous commencez par le biais de ce statut d'auto-entrepreneur. C'est tout. Après, dans les autres cas, c'est du travail déguisé. Donc, ce n'est pas un statut qui doit vous convenir. Voilà. Et je dirais quelque part que ça doit un petit peu alarmer parce que, de toute manière, ça sera un jour ou l'autre requalifié si vous travaillez pour un seul employeur, 40 heures par semaine pour un seul employeur, c'est du salariat. Donc ne vous aventurez pas dans cette direction, même si on vous le propose. Ça n'est pas quelque chose qui est adapté. Après, vous avez le portage salarial éventuellement qui peut vous permettre de travailler effectivement avec une entreprise dans le cadre de certaines missions. Là, j'ai vu passer une note. A priori, on va être fixé puisque on avait au niveau national des positions différentes sur le portage salarial avec certaines ex-ACEDIC, donc Pôle emploi indemnisation, qui acceptait le portage salarial et d'autres qui ne le reconnaissaient pas. A priori, on va vers une note générale qui devrait le reconnaître. Elle va sortir dans quelques jours, mais bon, enfin, a priori donc. Voilà, donc sachez que auto-entrepreneur, c'est non, puisque ce n'est pas un contrat de travail et ce n'est pas quelque chose qui est fait pour répondre à un emploi de type CDD. Il existe le CDD. Alors le portage salarial, c'est tout simple. Vous avez une société de portage salarial qui va vous salarier. Et c'est une société de portage salarial. Voilà, qui porte, voilà, tout à fait. Donc vous avez la société de portage salarial. La société de portage salarial va vous salarier. Et ensuite, elle va passer un contrat avec la société pour laquelle vous allez travailler pour une mission précise. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que c'est la société de portage salarial qui va payer les charges, etc., puisque vous êtes salarié de cette société. Et ça vous permet aussi d'ailleurs de tester une activité indépendante, hein, mais c'est beaucoup plus souple et puis surtout c'est encadré.
Vous avez des organismes de recherche qui ne peuvent pas vous salarier. Donc nous, on en avait quelques-uns qui avaient fait ça, c'est qu'ils étaient passés par une société de portage et du coup, ils avaient pu travailler au CIRAD sur des missions de 12 mois, etc. Mais le portage, ça se paye. D'accord, ça se paye. C'est pour ça qu'il va falloir faire jouer la concurrence. Puisque à l'époque, moi maintenant j'ai un peu décroché de ça depuis 3 ans, il y avait une différence de 7% à 14%. D'accord ? Donc effectivement, il y a un certain nombre. Vous allez sur Internet, portage salarial, même sur le site c'est assez connu, et vous verrez, on va vous conseiller de faire jouer la concurrence.
Ils ne font pas de démarche pour vous. Vous allez l'avoir en disant, voilà, j'ai un contrat possible avec telle entreprise. C'est l'entreprise de portage salarial qui passe le contrat, qui encaisse et qui vous paye avec des retenues, effectivement. Mais vous avez, en général, des avantages. Moi, je crois que c'est quand même une bonne formule. Il y a eu des abus, mais il y a des entreprises très solides en ce domaine. Et vous avez des avantages qui sont le statut de salariat avec les couvertures sociales qui sont quelquefois de mise à disposition de bureaux, d'outils bureautiques, etc., que vous pouvez effectivement utiliser. Mais la démarche première, c'est j'ai une touche avec une entreprise qui est intéressée à ce que je fasse telle chose chez eux.
Pour vous renseigner sur le portage salarial, au sein de Pôle emploi cadre international, enfin on travaille entre guillemets, on travaille avec une société qui s'appelle ITG Portage Salarial, qui est une société nationale. Alors l'avantage, après au niveau des frais qu'ils prennent, etc., je ne sais pas, donc ça il faut vous renseigner. Mais pour savoir ce qu'est le portage et comment on travaille en portage salarial, c'est intéressant de prendre contact avec eux. Vous tapez ITG Portage Salarial sur Google, et là vous allez tomber sur leur site, et une fois par mois, la responsable organise une réunion qui dure une journée avec un repas au milieu. Alors vous payez le repas bien entendu si vous y participez, mais tout le reste est gratuit. Et elle vous explique ce qu'est le portage salarial, elle explique comment se vendre un portage salarial. Et l'après-midi, vous avez des consultants qui travaillent par ce biais-là, qui viennent présenter la façon dont ils travaillent par rapport à ça. C'est très intéressant. Et ça crée aussi un réseau, puisque le réseau d'ITG est quand même assez conséquent. Donc c'est pareil, ça peut étoffer vos relations et c'est de ce fait très intéressant.
Juste par rapport au statut, je ne suis pas encore très, très clair là-dessus, sur les possibilités d'embauche. Certaines entreprises vont préférer l'auto-entrepreneuriat, en tout cas peut-être pour commencer, c'est ce que vous critiquez tout à l'heure. Est-ce que le portage salarial, ça peut être une solution qui avantagera, qui conviendra à l'entreprise qui ne voulait partir que sur de l'auto-entrepreneuriat? Ou quelles sont les possibilités pour faciliter justement cette prise de travail? Parce que dans le marché actuel, ce n'est pas évident d'en trouver. Des fois, on va nous proposer que ça. Mon expérience, c'est ça. En fait, ça fait 3 mois que je travaille, moi, dans une petite entreprise, une start-up. On est 5 et je suis parti sur l'auto-entrepreneuriat et avec le but d'ici 2 mois, de changer, de passer en contrat indéterminé, à durée indéterminée. Donc je me pose des questions sur par rapport à mon expérience ou s'il m'arrive d'autres expériences de ce genre ou pour ceux qui sont ici, sur est-ce que tant pis on crache sur l'auto-entrepreneuriat, on va chercher quelqu'un autre part. C'est pas toujours évident. Moi j'ai eu la chance de trouver à Montpellier et j'en étais bien content. Ou est-ce que c'est cette autre possibilité, ça peut convenir aux entreprises, le portage salarial, pourquoi, enfin comment, quelles sont les différences quoi?
Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que le portage salarial, c'est cadré. C'est un cadre juridique qui est établi. L'auto-entrepreneur, il ne faut pas hésiter à leur dire qu'il y a un risque de requalification. Puisque de toute manière, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus... Vous avez, pour les formateurs, par exemple, vous avez des écoles qui avaient des formateurs qu'ils prenaient en CDD tous les ans. Et puis, ils ont vite compris qu'avoir des formateurs auto-entrepreneurs, c'était super parce que ça leur coûtait quand même moins cher. Et aujourd'hui, il y a un œil qui est quand même très fortement porté par l'administration sur ça, parce que c'est du travail déguisé. Quand vous travaillez pour un seul employeur et que tout votre travail est fait en direction de l'employeur, vous êtes salarié de l'employeur. Enfin, voilà, vous êtes un de ces salariés. Donc, de toute manière, il y a des risques de requalification et ça leur coûtera super cher. Donc, il faut quand même les prévenir par rapport à ça. S'ils leur savent comment ça s'y mettre et à dire non, non, mais là c'est un salarié, vous allez voir combien ils vont payer après quand ça va être requalifié. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, c'est ça.
Il y a les fameuses SS2I aussi, hein, pour. On sait que Sanofi a pour habitude de recruter par ce biais-là. C'est une société donnée, une SS2I qui recrute et qui met à disposition, c'est un peu le principe des boîtes intérimaires. D'accord ? Et ces boîtes vous paient même lorsque vous n'êtes pas en mission, puisqu'elles s'engagent, vous signez un CDI avec ces entreprises-là, et elles s'engagent à vous trouver une activité. Hein ? C'est notamment ce jeune des arts et métiers qui a été recruté, ce jeune homme dans le pétrole, qu'on connaissait l'un et l'autre, qui a été recruté par une SS2I et qui est mis à disposition de grands groupes. Hein ? C'est aussi une... En informatique, il y en a pas mal. Et moi, chez Sanofi, oui, on en avait un ancien qui a été envoyé en mission, et même un docteur en mathématiques qui était passé par une SS2I. Hein, il y a ça aussi. Donc, il y a les boîtes intérimaires. Et puis, j'aimerais aussi qu'on vous parle effectivement du crédit impôt recherche quand même. Vous êtes tous au fait de ça? Waouh! Alors ça... Ça va être peut-être l'argument hein, qui va faire, qui peut peut-être décoincer une situation de recrutement. Allez, je vous laisse la parole.
Il y a tout sur Internet, donc vous irez voir sur Internet puisque vous êtes des chercheurs et que vous savez chercher et que vous êtes autonome. Donc oui, effectivement, quand vous êtes docteur, il existe une mesure qui s'appelle le crédit d'impôt recherche. Impôt recherche, et en fait, par ce biais-là, l'entreprise peut être aidée et votre rémunération peut être en partie prise en charge par le biais de ce crédit impôt recherche. Ce qui fait que vous coûtez peu à l'entreprise, et si je me souviens bien, en Languedoc-Roussillon, il doit y avoir quelque chose qui intervient aussi et qui permet en gros de prendre en charge le salaire sur 2 ans. C'est ça, hein, c'est
oui,
ça.
C'est ça.
Voilà. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose, si vous ne le connaissez pas, il faut vous renseigner dessus parce que c'est un argument qui peut être crédit impôt recherche.
Il faut le donner. Hein. C'est un argument à donner à quelqu'un de fébrile, à quelqu'un qui hésite, qui va se dire, bon, il va me coûter cher, etc. Il faut même l'avoir avec vous, hein, le doc. Hein, ayez ça sur vous parce que c'est ce qui peut faire pencher la balance. Oui.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, moi je voudrais vous dire, on a évoqué le fait que vous étiez là pour poser des questions et on a parlé de salaire. Alors, il y a un conseil, moi, que je vous donne vivement. À la fin d'un entretien, vous devez poser des questions. Alors, ça peut être sur l'insertion, ça peut être sur des tas de choses. Mais il y a deux points que vous devez obligatoirement aborder à la fin de l'entretien. Premièrement, quelle sera la suite ? Ne partez pas sans savoir, effectivement, dans quel délai l'entreprise réagira, etc., pour que vous sachiez effectivement si la balle est dans votre camp ou pas. J'ai entendu ici à Montpellier un DRH d'une des plus importantes entreprises de la place dire en public, à la suite d'un entretien, je ne donne suite positive que s'il y a relance de la part du candidat. C'est personnellement une attitude que je trouve un petit peu exagérée, mais elle existe, elle a été annoncée. Donc beaucoup d'autres le font sans le dire. Lui, au moins, le disait. C'est-à-dire, si l'on vous dit, bon, bah, nous prendrons notre décision sous 8 jours, il faut effectivement, non pas que vous attendiez 2 mois dans votre salon une éventuelle réponse, mais que vous relanciez en disant, vous m'avez dit que, etc. Donc c'est un point que vous devez obligatoirement aborder. L'autre point, on en a parlé, de salaire. Si la question du salaire n'est pas abordée par le candidat, pour moi, ce n'est pas quelque chose de positif. Parce qu'encore une fois, je ne recrute pas un pur esprit. On a parlé de tas de choses, mais il ne m'a jamais interrogé sur les conditions salariales. Ce n'est pas à son actif. En revanche, c'est difficile quelquefois d'aborder le sujet et le candidat peut difficilement dire au recruteur... Bon, quelle sera ma rémunération ? S'il a en face de lui, effectivement, le patron de l'entreprise, c'est facile. Mais sinon, il ne sait pas, effectivement, s'il a en face de lui l'interlocuteur qui peut lui parler de politique salariale. Et puis, le risque qu'il y a aussi à dégainer trop vite, c'est de donner l'impression que, bon, bah, c'est joué, qu'est-ce que vous allez me proposer en début de salaire et en début de carrière et qu'est-ce que je gagnerai dans un an ? Alors, je conseille un... depuis presque toujours, enfin, je conseille une question, de poser la question de la façon suivante. Avec qui et à quel moment serais-je amené à parler de conditions salariales ? Conditions salariales, c'est assez large. Avec qui et à quel moment ? De deux choses l'une, où vous avez l'interlocuteur devant vous qui vous répond, ou bien il vous dit, ce qui est le cas dans beaucoup d'entreprises, ben, vous verrez ça avec notre... etc. Et dans quel délai ? Mais ne partez pas sans avoir, si la question du salaire n'a pas été abordée, ne partez pas sans l'avoir de votre côté abordée et ne pensez pas que c'est positif pour un recruteur d'avoir en face de lui un garçon ou une fille qui n'a pas effectivement évoqué ce sujet. Et en même temps, ne mettez pas les pieds dans le plat. Donc, démarche, je vous dis, bon, on en parlera à quel moment et avec qui. Mais ça veut dire j'ai les pieds sur terre, hein. Si vous n'en parlez pas, bon, je vous dis, toute zone d'ombre sera interprétée contre vous. Vous ne parlez pas de salaire, ça veut dire, bon, il n'a pas le sens des réalités, il n'a pas... Je vais gamberger là-dessus, peut-être à tort, en disant, bon, ben, il n'a pas les pieds sur terre. Moi, je ne recrute pas quelqu'un qui n'a pas, effectivement, les pieds sur terre et qui n'a pas le sens des réalités. Donc, c'est un mauvais point.
Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous le retrouverez dans un guide pratique. Alors... Bon, je vais peut-être vous donner le lien, c'est sur Pôle emploi. Donc vous allez sur pôle-emploi.fr. Vous allez ensuite dans l'espace candidat. Et dans l'espace candidat, vous allez aller sur les conseils à la recherche d'emploi. Et là, vous allez pouvoir accéder à un guide qui s'appelle « Réussir l'entretien d'embauche ». Et là, vous avez absolument tout qui est expliqué. Comment le préparer, comment peuvent se dérouler les entretiens d'embauche. Vous avez aussi des informations sur la rémunération, comment parler rémunération. Et vous avez aussi des informations sur les différents types de contrats qui existent. Donc, vraiment, tout est expliqué là-dessus. C'est vrai que là, on a eu une discussion, donc c'est intéressant parce qu'on peut parler de façon beaucoup plus informelle. Là, c'est quelque chose de structuré, d'organisé. Vous avez un plan. C'est une sorte de cours sur l'entretien d'embauche. Et c'est important d'avoir quelque chose d'assez carré, avoir un support, en tout cas. Et ça vous donne ce support-là. Alors j'en profite pour faire un peu de la pub sur notre site, parce que quelquefois on n'y va pas forcément. Vous avez le site de la PEC qui est très bien fait également, hein, il y a énormément de conseils, et ce ne sont pas les mêmes que vous retrouvez forcément sur le site de Pôle emploi. Donc faites les deux. Prenez le temps d'aller sur le site de Pôle emploi dans l'espace candidat, prenez le temps d'aller voir les conseils qui y sont donnés et faites la synthèse entre ce que vous allez trouver sur la PEC et ce que vous allez trouver sur Pôle emploi. Ça vous donnera des connaissances complémentaires et ça renforcera votre préparation pour l'avenir professionnel qui s'approche.
Ça va être le mot de la conclusion. Bah écoutez, on espère avoir répondu à vos attentes, ou au moins partiellement, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour, là? Est-ce qu'on a répondu un peu, beaucoup? Oui? C'est vrai? D'accord. Très bien. Alors, je refais un tout petit coup de pub, parce qu'on en est là, hein. Les conclusions, ça sert à ça, hein. Mais c'est surtout des outils et des propositions pour vous. Tout à l'heure, j'ai parlé du module CV... qui n'est vraiment pas fait d'unanimité, et il y a d'autres dates. Mais il y a aussi, on a mis en ligne sur la MED, un module entretien de recrutement, quand même. Et pas mal celui-là, hein, animé par Jean-Pierre Pécoul. Alors, la formule, vous irez voir, c'est quoi? C'est vous repérez une offre d'emploi de votre choix, ou vous créez une situation pour faire une candidature spontanée, vous envoyez CV et lettre de motivation, et là, vous bénéficiez d'un entretien, d'une simulation d'entretien de recrutement avec 2-3 recruteurs. Donc ça se passe le jour J. Et ensuite, le mois suivant, je ne me souviens plus des dates, hein, vous irez voir, on réunit tous les candidats qui se sont prêtés à cet entretien de recrutement pour faire un débriefing collectif. Donc vous bénéficierez juste après l'entretien d'un débriefing individuel, bien évidemment, et ensuite d'un débriefing collectif le mois suivant. Donc je vous invite là aussi à vous inscrire à ce module entretien. Il est très formateur et ceux que j'ai rencontrés, les étudiants qu'on a vus l'an dernier, étaient très contents, bien évidemment. Là, c'est une véritable présentation et préparation.
C'est vraiment incontournable. Il faut faire une simulation d'entretien avant de faire un vrai entretien. C'est comme vous entraînez à l'oral quand vous passez un examen, vous vous entraînez, la simulation d'entretien, elle doit être préparée.
Il nous est arrivé d'être si comidériens, parce qu'il faut bien que je dise un mot du comidaire quand même. Je ne suis pas le seul à intervenir dans ce genre d'action, mes épaules ne seraient pas assez larges. Donc il nous est arrivé d'être si comidériens avec 4 docteurs, c'est un peu dommage pour nous et peut-être pour eux. Donc le Comidaire, c'est une association d'anciens jeunes diplômés, souvent, en tout cas de cadres retraités ou pré-retraités, ayant tous eu des responsabilités en entreprise ou dans l'administration. L'intérêt, c'est que nous sommes 150 environ et de profils extrêmement variés. Ça veut dire que dans les simulations d'entretien également, vous pouvez avoir en face de vous un professionnel du commerce international du café, avoir un ancien général d'aviation, avoir un ancien du CIRAD. Donc c'est des profils extrêmement variés. Et il y a des banquiers, des juristes, etc. Et c'est l'intérêt également pour vous, peut-être, c'est d'avoir en face de vous des gens de profils différents qui vous donnent un aperçu de ce qui peut se passer en entretien de recrutement. Et il y a une chose alors qui, moi, à chaque fois m'épate un peu, c'est la convergence qui existe entre des gens d'âge différents également. J'ai des collègues au Comidaire qui ont 15 ans de moins que moi. Entre des gens d'âge différents, de profils différents, d'expériences différentes. Et en général, on converge très facilement pour dire effectivement quel est l'intérêt de cette candidature pour une entreprise donnée. Ça veut dire que la simulation d'entretien n'a aucun sens si je ne sais pas, si nous ne savons pas quel est le type de poste que vous visez ou quel est le type d'entreprise à laquelle vous voulez faire une candidature spontanée. On a peu parlé des candidatures spontanées ce matin, on n'est pas le temps d'y revenir maintenant, mais pensez effectivement. Souvenez-vous qu'il y a 20 à 30% au maximum des recrutements qui se font suite à annonces, suite à réponse à des annonces, que ce soit des annonces papier ou des annonces internet. Tout le reste, c'est du contact direct ou des candidatures spontanées. Donc pensez effectivement, quand vous avez un projet professionnel, pensez à la candidature spontanée auprès d'entreprises dont certaines ne travaillent que comme ça. Il y a assez régulièrement des annonces d'un groupe qui est Michelin, qui vous dit clairement, on vous aidera à réaliser votre projet professionnel. Ça veut dire, c'est pas, on ne vous dira pas où on vous conduit, mais dites-nous effectivement comment vous voyez votre évolution de carrière, et on vous dira si c'est possible chez nous, et si c'est possible, on vous aidera à réaliser votre projet professionnel. Donc la candidature spontanée, ça suppose au départ, ça exige un projet professionnel qui tienne à peu près la route. Pas figé, pas quelque chose de trop précis, mais qui tienne la route. Voilà comment je vois ma carrière et comment j'aimerais voir évoluer ma carrière. Alors si vous êtes mûr, vous pouvez effectivement jouer la carte des candidatures spontanées qui est tout à fait payante. Je reviens donc au comidaire. L'intérêt qu'il y a peut-être dans ces exercices, c'est de vous faire rencontrer encore une fois des gens de profils différents. Certains pourront parler votre langage, d'autres pas. Vous pouvez être en face d'un chimiste et d'un banquier. Vous pouvez être en face d'un commercial et d'un informaticien. Et les convergences sont en général assez fortes. Alors, on maintient l'opération à la demande de Naïma. Et puis, on espère qu'il y aura du monde à la porte.
Merci. Puis, à bientôt. Plaisir de vous revoir. Et bonne continuation.